Vous êtes sur RTL. Thomas Soto,
RTL Soir.
Elle a reçu le prix Goncourt pour Chanson douce. Elle vient de sortir une bande dessinée qui s'appelle À main nue aux éditions des Arènes. Elle a aussi décidé de sortir des réseaux sociaux. Laïla Slimani est l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Laïla Slimani.
Bonsoir.
Pour vous lire, désormais, il faudra passer par vos livres, par votre BD, parce que pour vous, Facebook, Twitter, Instagram et consorts, c'est terminé. Pourquoi ?
Justement pour ça, parce que je suis écrivain et que j'ai fini par me rendre compte que quand on était écrivain, c'était d'abord très mauvais d'écrire avec la perspective de vouloir plaire, parce qu'il y a une des choses qui est à mon avis très négative dans les réseaux sociaux, c'est ce désir d'être adoubé, d'avoir des likes, cette espèce de montée d'adrénaline qu'on a quand on a 350, 1000, je sais pas combien de petits cœurs. Et je crois que pour un écrivain, c'est quelque chose de très mauvais et qu'il faut réserver sa parole, il faut savoir se faire rare. Et ensuite, en tant que citoyenne, je trouve ça très mauvais aussi de s'habituer à la haine, à l'insulte, de finir par considérer que c'est normal dans sa journée de se faire traiter de tous les noms pour un oui ou pour un non. Et je crois que voilà, les problèmes aujourd'hui de notre démocratie se nourrissent aussi de toute notre petite lâcheté et de notre manque de vigilance et de lucidité à cet égard.
Vous avez fait une overdose de tout ça, de cette haine, ça vous a empêché de dormir. À un moment, vous vous dites ça suffit, qu'est-ce qui s'est passé pour... Parce qu'on a tous, à un moment, on s'est tous dit, je vais arrêter, ça me saoule, on en prend plein la figure, on n'a rien demandé. Mais on n'est pas beaucoup à le faire. Pourquoi vous dites à un moment « stop, basta » ?
Parce que j'avais l'impression que ça m'empoisonnait. Ça m'empoisonnait en tant qu'artiste et ça m'empoisonnait en tant que personne. Que j'avais le sentiment aussi que je pouvais pas grand-chose contre ceux qui m'insultaient pour un oui ou pour un non. Que parfois, pour des prises de position tout à fait bêtes, pour un texte que j'avais écrit, on m'envoyait des menaces, on me parlait de mes enfants, de ma mère, on me souhaitait ma mort, on m'a décrit par le menu la façon dont on allait me violer. Et je considère que c'est pas normal de vivre ça dans sa vie d'artiste ou de femme publique. Donc je me suis débarrassée de ce poison.
Pourtant, sur le papier, les réseaux sociaux, Laïla Slimani, c'est la possibilité que chacun puisse parler à chacun, d'égal à égal. C'est une fumisterie, ça ? C'est une illusion ?
Ah non, je crois pas que ce soit une illusion. Et j'en ai moi-même d'ailleurs beaucoup profité en tant que militante, en tant que féministe, au Maroc notamment pour mon mouvement qui est un mouvement pour le droit à l'avortement et les droits sexuels. Donc je sais aussi ce que ça peut apporter de soutien, de solidarité. Simplement, j'ai le sentiment que dans le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a un moment extrêmement anxiogène où les gens sont très, très nerveux, où n'importe quoi suffit à faire surgir des étincelles de haine. Il faut aussi savoir se protéger et moi j'avais envie de me protéger individuellement et de protéger aussi ma famille.
Ça, on comprend et on entend tout ce que vous avez vécu, mais laisser le terrain à ces obscurantistes, aux complotistes, aux tordus de tout poil, est-ce que ça ne revient pas à leur concéder la victoire, à leur abandonner le territoire ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ça aussi ?
Non, moi je crois que c'est vraiment une fausse idée que de penser que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va combattre les fanatiques, parce que si vous voulez avoir un vrai débat, ce n'est pas sur Facebook en réalité que vous l'aurez, un vrai débat et on l'a les yeux dans les yeux, avec des vrais arguments, en prenant le temps. Il faut arrêter de se leurrer, de faire semblant de croire qu'on va combattre les grands fanatiques sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est très dangereux de penser ça.
En même temps, c'est là qu'ils se sont ligués et que ça aboutit à l'exécution de Samuel Paty.
Oui, mais c'est pas là qu'on débat avec eux, c'est là qu'effectivement la sauce monte et la haine. Mais moi, je débat tous les jours avec eux, en écrivant des livres, en passant 12 heures par jour à travailler, à lire, en allant dans des écoles, en allant dans des prisons. C'est comme ça que je travaille. Et je crois que c'est très dangereux aujourd'hui. Bon, il y a plein de gens, quand j'ai quitté les réseaux sociaux, qui m'ont dit, mais tu comprends, moi je ne peux pas, parce que justement, il faut continuer à parler avec eux. Vous voyez, même s'ils t'insultent, il faut supprimer. Mais non, il ne faut pas simplement supprimer, c'est pas comme ça que ça marche. Donc moi, j'ai décidé de les combattre, mais autrement.
Ce ouvrage a été difficile ou pas ? Vous avez quitté, je crois, le 20 octobre, tout ça. Ça vous a manqué un peu ?
Alors, pas du tout, absolument pas.
Vous n'avez pas un compte secret pour aller
absolument
voir ?
Absolument pas. J'ai des copains qui m'ont envoyé des messages en me disant, alors, est-ce que tu souffres ? Enfin, vraiment, j'ai eu des réactions très bizarres. D'abord, des gens qui m'ont dit, mais t'es très courageuse. Je me dis, mais quel est le courage d'appuyer sur deux boutons pour supprimer un compte ? Et des gens aussi qui veulent se justifier en vous disant, ouais, tu sais, moi aussi, je le ferai en janvier, mais là, je peux pas parce que par rapport à mon métier,
les
gens
se
trouvent toujours des excuses.
Oui.
Et non, ça ne me manque pas du tout. Je me suis remise à cuisiner. J'ai plus de temps pour moi. Voilà.
Alors, vive le réel, la cuisine, le dur, le vrai, le palpable. Laïla Slimani, vous sortez donc une bande dessinée qui s'appelle À main nue, inspirée de l'histoire de Suzanne Noël et illustrée par Clément Houbrery. Suzanne Noël, que j'avoue, je ne connaissais pas. Alors, c'est une femme, médecin, chirurgien, qui est née à la fin du 19e, qui a vécu la première moitié du 20e siècle. Elle a réparé des gueules cassées pendant la Grande Guerre. Comment l'avez-vous rencontrée, entre guillemets ? Pourquoi elle ?
Eh bien, à cette époque, au moment où je l'ai rencontrée, je m'intéressais à la chirurgie esthétique parce que, en tant que féministe, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, le rapport des femmes à leur corps et la liberté qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas d'en disposer, de le transformer. Et je découvre ce nom, Suzanne Noël. Je vais regarder sur Internet et là, je découvre découvre un destin non seulement fascinant, mais extrêmement romanesque, puisque cette femme va traverser le siècle, les deux guerres mondiales, elle va effectivement réparer les gueules cassées, devenir la plus grande chirurgienne esthétique du monde à cette époque.
Et ça, vous racontez dans la BD, c'est pas anecdotique. Vous dites, alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'on sait pas ce qui est romancé et ce qui est biographique, elle a fait un lifting à Sarah Bernhardt.
Non, c'est tout à fait vrai.
Donc ça, c'est vrai.
Oui, c'est tout à fait vrai. Elle a fait un lifting à Sarah Bernhardt, et c'est vraiment une femme qui a inventé des techniques incroyables. C'est elle qui a inventé la liposuction, qui a inventé le mini lifting tel qu'on le pratique encore aujourd'hui. Elle a refait les premières poitrines pour les garçons qui voulaient commencer à porter ces vêtements modernes pour les femmes françaises.
Vous dites c'est pas du futile. La chirurgie esthétique, ça compte, c'est important, c'est pas rien. Pourquoi ?
En tout cas, c'est la vision qu'en a Suzanne Noël. Suzanne Noël, elle se rend compte d'une chose, c'est que les femmes après la Première Guerre mondiale, elles arrivent massivement sur le marché du travail. Mais à l'époque, il n'existe aucune loi contre les discriminations. On peut vous renvoyer du jour au lendemain. Or, les femmes font des métiers dans lesquels leur apparence compte beaucoup. Elles travaillent dans des maisons de couture, elles sont secrétaires, elles sont souvent, elles travaillent dans des restaurants. Et pas mal d'entre elles viennent la voir en leur disant, j'ai vieilli, je suis moins belle, j'ai été renvoyée, je n'ai aucun recours. Elles sont abandonnées par des maris à cause de l'âge. Et Suzanne va avoir cette idée tout à fait moderne que le bien-être, le fait de se sentir bien dans son corps, c'est aussi finalement, c'est le fait d'être bien dans sa peau, ça a des incidences économiques, des incidences psychologiques et sociales. Et donc, elle va à la fois devenir une très grande féministe, une militante pour le droit de vote. Elle refuse, par exemple, de payer des impôts, puisqu'elle considère que si on n'a pas le droit de voter, il n'y a pas de raison de payer des impôts. Et elle va, effectivement, opérer toute l'Europe, toutes les aristocrates européennes, mais aussi les ouvrières, les femmes défigurées, les enfants.
Alors, elle est féministe, Suzanne. Le féminisme, la condition féminine, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre œuvre, que ce soit sur les romans ou sur la bande dessinée, comme ici. Est-ce que vous avez le sentiment, Laïla Slimani, que la cause progresse dans les esprits ou ce sont simplement les convaincus qu'ils sont de plus en plus ? Est-ce que ça avance vraiment ?
Non, je crois que ça avance vraiment. Je crois que d'abord, je crois qu'il y a une prise de conscience de ce que c'est qu'être une femme. Beaucoup d'hommes ne se rendaient pas compte, notamment avant le mouvement MeToo, de ce que au quotidien cela pouvait représenter de vivre en tant que femme au travail, dans la rue, prenant le métro, dans les rapports sociaux. Je crois que beaucoup d'hommes ont pris conscience. Et puis surtout, je crois que la nouvelle génération, les adolescents et même les enfants, ont un rapport aussi à la condition féminine et de manière générale au genre qui a beaucoup changé. Les garçons sont plus libres dans leur rapport à la masculinité, à la virilité, et les filles plus battantes dans leur façon de revendiquer leurs droits et leur place dans la société.
Qu'est-ce que vous pensez de Kamala Harris, qui sera la prochaine vice-présidente des États-Unis ? Et je vais même vous poser la question qui va avec. Est-ce que c'est pas le degré zéro du féminisme de la trouver forcément par principe formidable, merveilleuse, juste parce qu'elle est femme, alors qu'on la connaît pas finalement, on connaît pas ses idées, qui sont peut-être très bien, mais en fait on n'en sait rien. Mais on a l'impression que là il faut dire, oh, Kamala Harris c'est génial. Peut-être qu'elle est géniale. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, peut-être qu'elle est géniale. Enfin moi je crois que c'est quand même une femme qui a fait ses preuves. Hein. C'est une femme brillante, qui a été procureure, qui a été très combative à chaque fois qu'il a fallu l'être. Elle a eu quand même une ascension absolument fulgurante. Ce qu'elle raconte aussi de son éducation, des valeurs qui lui ont été transmises par ses deux parents qui étaient des élèves et des étudiants absolument brillants. Moi, ça m'a plutôt touchée. Donc, je ne sais pas si elle est extraordinaire.
Parce que sur les réseaux sociaux, vous
n'allez
plus voir, il y en avait partout.
Oui, c'est exactement pour ça que je suis partie, parce que ça empêche de réfléchir. Quand vous voyez partout des choses, ça finit par vous noyer le cerveau. Donc, je ne sais pas, je verrai au fur et à mesure de ses actions. Mais je crois qu'en tout cas, en termes de modèle, c'est quand même extraordinaire pour un grand nombre de femmes noires, de femmes d'origine asiatique, de voir qu'on peut arriver à ce niveau de pouvoir. Et même si moi, avant, je ne croyais pas tellement à cette idée de modèle, je suis un peu revenue là-dessus. Et je pense que c'est important, effectivement, pour des jeunes femmes, d'avoir des modèles auxquels s'identifier.
Et se dire, je peux y arriver, comme elle l'a dit, en s'adressant aux petites filles. Dernière question, cette BD, vous auriez aimé qu'on puisse la trouver avec tous vos autres livres dans les supermarchés? Là, on sait que les librairies sont fermées. Vous avez signé la pétition, d'ailleurs, pour demander la réouverture des librairies. Est-ce que vous auriez aimé qu'on puisse au moins la trouver dans les supermarchés ?
Oui, j'aurais aimé, bien sûr. C'est vrai qu'on est dans une situation là qui est quand même assez absurde. Il y a des choses très incohérentes. En même temps, ce que j'aimerais surtout, c'est que les soignants puissent se reposer, que les gens tombent moins malades et que le confinement dans lequel on est et qu'on est en train de subir soit le plus efficace possible pour qu'il dure le moins longtemps possible. Donc je suis aussi dans un moment où là, je suis juste une citoyenne en solidarité avec tous les gens qui sont mis en difficulté par ce virus.
Merci Laïla Slimani.
Merci
ça
à
fait
vous.
Du bien de vous écouter. J'ai peut-être vous réécouter. m'écouter quand ils m'énerveront les réseaux sociaux. Votre BD illustrée par Clément Houbrey s'appelle donc À main nue et elle est publiée aux éditions Les Arènes. Merci infiniment d'être venu nous voir ce soir. Demain, ce sera le 11 novembre, 102e anniversaire de l'armistice. Julien Molcou a décidé de défiler avec un peu d'avance. C'est la culture de l'actu tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.